Salut, c'est Armel,
Maude
et Marion.
On est parti pour une petite heure d'émission pour les 40 ans plus 1 de Bécourt. On est super contentes de vous retrouver ce matin, on espère que vous allez bien. On a plein de trucs à vous faire écouter pour cette première émission du week-end.
Roots Nouvelle avec un retour sur le clash de 1978 aux Éclés avec Germain et Bernard. Les éboueux se demanderont si le tri sélectif est capitaliste. On aura le droit à une interview de Margot et Tim qui nous parleront de leur collectif de voile autogéré en Bretagne.
Ensuite, il y aura aussi une chronique sur les moyens de contraception utilisés par quelques personnes ici présentes et comment ça leur va. Suivi pour les 100 ans des éclaireuses d'une chronique sur les origines de la FFE, la Fédération Française des Éclaireuses. On vous a aussi prévu plein d'autres surprises tout au long de cette petite heure d'émission. Mais tout de suite, le programme de la journée à Bécourt. Alors, qu'est-ce que vous avez de beau à faire aujourd'hui sur le COS à Bécourt? D'abord, toutes les infos sont sur le panneau d'actu à l'entrée du hameau, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est aussi là que vous avez les derniers changements de programme, changements de points de rendez-vous, etc. Toute la journée, vous avez plusieurs propositions. La ludothèque, qui est entre la Pink Foufoune Caravane et la mairie, où vous pouvez aller jouer de 7 à 97 ans à des jeux de société. Vous avez aussi des expos dans le village qui vous permettent de voir l'état des maisons avant les rénovations, par exemple, et de découvrir un petit peu l'histoire de Bécourt. De 10h à 18h, il y a un escape game de haute qualité, paraît-il, dans le garage. Il faut aller s'inscrire sur place, donc au garage. Il y a aussi des ateliers, notamment un atelier bac de foulard qui se tient devant Cardabel un peu toute la journée, si on a bien compris. Toute la journée également, la zone Chuis Libre qui est un petit peu en dessous de la Pink Foufoune Caravane avec des canapés, super agréable et tout ça. Si vous vous posez dans cette zone-là, c'est que vous êtes dispo pour que des équipes de l'Orga viennent vous chercher pour filer un coup de main sur des services, faire de la pluche, ranger des trucs. Dans les trucs qu'il va y avoir à faire spécialement aujourd'hui, il y a...
Si vous avez envie de faire de la boulange, puis d'aller s'inscrire sur place, du coup au réfectoire. Si vous voulez du pain, il faut aller les voir avant ce soir 18h pour commander et le pain sera à récupérer dimanche matin. Sinon, à part ça, Emilien et Philippe proposent des visites guidées à 14h30 ou à 16h30. C'est des visites qui durent environ 3 quarts d'heure, qui permettent de découvrir le hameau et la vie dans le passé.
Dans le programme de la journée, en parallèle des 40 plus 1 an de Bécourt, il y a les universités d'été des éclaireuses et éclaireurs de France qui se déroulent globalement de 10h à midi, puis de 13h30 à 15h30. Et aujourd'hui, au programme, il y a des discussions et des ateliers sur la pédagogie sociale, c'est quoi concrètement, un atelier sur déconstruire la norme hétérosexuelle dans nos activités clés. Des activités aussi sur la question de la progression individuelle et collective pour les aînés ou la question de l'apprentissage démocratique et des conseils d'enfants. N'hésitez pas à aller voir le programme complet sur le panneau d'actu. Dernière proposition, le ciné-club qui aura lieu pendant 3 jours et qui aujourd'hui est particulièrement riche puisqu'il y a des films à peu près toute la journée. Ça va de 10h, une première séance remonter le temps avec deux films d'avant Bécourt. 14h, séance le scoutisme dans les dessins animés pour les plus jeunes et les moins jeunes. Ou 16h40, une projection-discussion d'un film réalisé par l'INJEP sur les origines et les racines colonialistes du scoutisme. En termes de spectacles et performances, à 16h, il y a la compagnie Mange qui vous propose une rencontre autour de la question de la mort et des rites funéraires à la source. Donc la source, c'est quand vous tournez le dos au village, sur la droite, vous suivez les petits chemins et vous arrivez à un endroit, une espèce de clairière dans le sous-bois. À 18h, sur la grande scène, il y a la chronique de Bécourt, tenue par les anciens et les anciennes de Bécourt. 40 ans d'anecdotes insensées, narrées avec espièglerie par celles et ceux qui y étaient. Rendez-vous devant la scène.
À 22h, la Rousse et les petits Robert nous proposera une séance de bal folk avec des reprises de chansons des années 80 à 90, version trad.
Et pour celles et ceux qui veulent s'ambiancer sous les lumières du Moonlight Club, il sera ouvert à partir de minuit et jusqu'au bout de la nuit.
Mais pour le moment, c'est le matin, vous êtes en train de petit déjeuner et on passe tout de suite à la programmation de Radio B.
Ouais, Radio B.
Super, et bah salut Bernard, bienvenue sur l'émission Chronique Routes Nouvelles, où l'objectif c'est de revenir un peu sur les anciens numéros de Routes Nouvelles et avec un peu une thématique bécourienne de un jour, un texte, un vieux, une polémique.
Bon d'accord, alors je fais le vieux là-dedans. Hein.
Et bah bienvenue. Donc on a choisi un petit texte qui date de mars 78, enfin même plus précisément, c'est une délibération du comité directeur du 12 février 1978, que je vais te lire pour te rafraîchir un peu la mémoire. Voilà. Réunion du comité directeur du 12 février 1978. Après une longue discussion portant sur la situation créée depuis le 20 novembre par la démission du commissaire général, sur la dissolution du contrat collectif de l'équipe nationale, sur l'inquiétude qui s'est manifestée au comité national et sur le fait que la présidence ne peut assumer les fonctions de commissaire général par intérim, le comité directeur prend les deux décisions suivantes. 1. Le comité directeur décide d'engager les démarches pour demander la réintégration dans l'éducation nationale des instituteurs mis à disposition actuellement commissaires nationaux, afin de permettre à un commissaire général nommé avant juin de constituer plus librement son équipe. Les commissaires nationaux concernés entrent donc dans la période de reconversion prévue conformément aux dispositions qui leur sont applicables. Deuxième décision. Le comité directeur propose à Claire Mollet d'accepter la mission de commissaire général par intérim jusqu'à la nomination d'un commissaire général et au plus tard jusqu'au 15 septembre 1978. Vote pour 6 contre 3, bulletin blanc 1. Ce texte, apparemment tu y étais, tu as pris cette décision, tu as voté.
Oui, oui, j'ai voté pour ce texte, oui, je m'en souviens tout à fait. Et c'était l'aboutissement, d'une crise extrêmement... Enfin l'aboutissement, oui, on peut le dire. L'aboutissement institutionnel pour la direction de l'association, d'une crise, je dirais, politique et pédagogique assez sévère. Et si ces trois membres de l'équipe nationale sont remis à disposition de leur administration d'origine, à savoir l'éducation nationale, c'est que quelques jours auparavant, sans doute, là j'ai plus les dates exactes en telles, quelques semaines tout au plus, leur commissaire général, on disait encore commissaire général à l'époque, avait démissionné de ses fonctions. Dois-je citer son nom ?
Allons-y.
Il s'appelait Christian Korn et avait démissionné de ses fonctions, se sentant, ce qui était exact, désavoué par l'association qu'il dirigeait dans ses instances élues. Quoi. Donc ça, c'était la fin de la comète d'un processus là, qui était commencé depuis longtemps. Alors pourquoi cette équipe nationale a-t-elle échoué ? Ah, c'est difficile parce que c'est il y a très longtemps et je, bien que je sois prof d'histoire géo, que j'ai été prof d'histoire géo dans le civil et que je m'applique à avoir le regard distancié de l'historien, c'est quand même difficile d'échapper aux engagements de l'époque.
Donc,
après ces préliminaires diplomatiques, je vais donc, ne risquant plus rien pour ma carrière aux éclaireurs, livrer le fond de ma pensée. C'est pas que la mienne d'ailleurs. Et ben, cette équipe avait échoué parce que c'était des gens qui avaient été parachutés de l'extérieur par le comité directeur précédent pour tenter de reprendre en main l'association suite suite aux événements précédents. Enfin, comment dire, un des courants, il représentait un des courants dont il était assez difficile de cerner la réalité pédagogique. Mais en tout cas, c'était pour mettre fin.
C'était quoi ? C'était un courant plutôt traditionnaliste
En ce qui concerne l'équipe de Christian Korn, j'en sais rien. C'était un courant qui ne connaissait pas les éclaireurs, en tout cas. Cette équipe ne connaissait pas le mouvement qu'elle dirigeait. Mais enfin, tout était mieux, je parle pour les gens qui les ont nommés, tout était mieux que de continuer l'expérience précédente, qui était l'équipe nationale dirigée par Émile Gagnon, qui avait succédé au premier mandat de Cascade Claire Mollet, qui va revenir justement un peu de temps après, et qui avait commencé à tenter de réconcilier l'association par le rassemblement dans la Drôme en 1976, qui s'appelait Top 76, à Sceaux dans la Drôme, de remettre un peu les gens ensemble pour essayer de que le mouvement se retrouve, sans rien renier de son passé ni quoi que ce soit, mais se retrouve sur des orientations et surtout des pratiques pédagogiques, dans leur siècle, quoi, dans leur époque. Et comment dire, bah, il avait une tentative avait été faite de mettre un terme à cette expérience, et cette tentative a échoué au bout d'un temps relativement bref, puisque une autre majorité au comité directeur a été élue, des manœuvres dont je ne sais pas s'il faut les évoquer dans un micro ont été entreprises, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, pour déstabiliser cette équipe, et puis ils sont partis, la majorité avait changé, le président Jean-René Kergomar avait été élu président, Cascade Claire Mollet a été nommé de nouveau délégué général, et le mouvement de retrouvailles progressistes, de retrouvailles pour un mouvement engagé et novateur, mais de retrouvailles avec tout le monde qui avait été interrompu, a pu reprendre son cours. Et ici, Bécourt, plusieurs années plus tard, nous sommes les héritiers de cette reprise de cours.
D'accord, donc c'est un peu le retour d'une nouvelle direction, on va dire, plus progressiste, 10 ans plus tard, issu des événements de 68, avec, on va dire, plutôt des militants...
Issu de 68, c'est compliqué. Oui, d'une certaine façon, mais enfin, pas seulement. Issu aussi, et c'est ça qui était assez remarquable, issu aussi de l'engagement de certaines personnes déjà assez anciennes dans l'association. Je pense à Cascade, Claire Mollet, mais à Pierre-François également, qui avait présidé l'association au milieu des années 70, au moment de la consultation des Assises d'Avignon, qui étaient mais qui voulaient sauver les éclaireurs au nom des valeurs qu'ils avaient portées longtemps avant. Je pense à Pierre-François, et ces valeurs, elles étaient novatrices et progressistes, les éclaireurs et éclaireurs de Forte. De France, la FFE avant, les éclaireurs de France avant, étaient un mouvement en mouvement, quoi. Et donc il y a eu, comment pourrait-on dire, une sorte de conjonction, de trouvailles, de retrouvailles entre effectivement des jeunes plus 68 tard, etc. Des gens qui représentaient le mouvement depuis longtemps dans ce qu'il a de meilleur, pas dans ce qu'il a de pire, mais dans ce qu'il a de meilleur. Et c'est la conjonction de ça qui fait que ça a marché. Et puis les engagements, je pense, extrêmement courageux de Jean-René Kergomar, qui est devenu président à ce moment-là et qui ont un peu forcé, quoi, forcé le destin. Quoi.
Ok, et donc du coup, c'était un peu l'étape d'une nouvelle dynamique pour les éclairs qui a duré quand même un peu tout le long des années 80. De manière assez forte. Mais ça, du coup, on le verra dans les prochains Routes Nouvelles qui passeront à la moulinette de la chronique dans les jours qui viennent. Et en tout cas, merci Bernard pour les éclairages sur cette crise du comité directeur de 78.
Ouais, merci. C'est pour moi un plaisir de réactiver ça et de retrouver la fougue, la flamme et l'enthousiasme de cette époque heureuse, car nous étions jeunes.
God bless the grass that grows through the crack. They roll the concrete over it to try and keep it back. The concrete gets tired of what it has to do. It breaks and it buckles and the grass grows through. And God bless the grass. God bless the truth that fights toward the sun. They roll the lies over it and think that it is done. It moves through the ground and reaches for the air. And after a while, it is growing everywhere. And God bless the grass. God bless the grass that grows through cement. It's green and it's tender and it's easily bent. But after a while, it lifts up its head. For the grass is living and the stone is dead. And God bless the grass. God bless the grass that's gentle and low. Its roots, they are deep, and its will is to grow. And God bless the truth, the friend of the poor, and the wise.
grass growing at the poor man's door. And God bless the grass.
Quoi de neuf aujourd'hui, Bécourt? Nous, on se tape des barres à œufs en continu. Œufs durs, œufs mimosa et crème renversée. Mais il y a aussi du neuf à chaque heure. 10h30 et 13h30, œufs brouillés. 11h, omelette à la mimolette. 11h30, œufs à la coque. 12h, œufs cocotte. 12h30, œufs au plat. 13h, œufs parfaits. Le décompte jusqu'à 9 est lancé.
Vous écoutez Les Éboueuses.
La chronique des Éboueuses.
Et on vous dit merci, monsieur Poubelle, pour cette géniale idée nouvelle. Et on vous dit merci, monsieur Poubelle, grâce à vous, la planète est plus belle.
Les Éboueuses, chronique numéro 1. Le tri sélectif, c'est capitaliste. On est bien sûr là dans un choix de titre complètement putaclic et racoleur, c'est assumé, tous les bons chroniqueurs font ça. Mais j'avoue que j'ai été assez surprise le jour où j'ai appris que Frédéric Lordon était un militant anti-tri des déchets. Dans notre univers éclé plutôt de gauche, ce qui est largement euphémisé pour beaucoup d'entre nous, j'aurais tendance à ne pas présenter Lordon. Mais je déteste les gens qui font ça en supposant que tout le monde connaisse ce qu'ils connaissent. Donc Lordon. Très synthétiquement, c'est un maître à penser de la gauche radicale en ce moment. Il a particulièrement émergé pour le grand public au moment des Nuits Debout. Plus basiquement, c'est un économiste et un philosophe français. Wikipédia te dira qu'il défend une pensée économique hétérodoxe dont les positions rejoignent une partie de la gauche radicale française. Ça donne le ton. J'irai pas en détail dans cette présentation, désolé pour les puristes. Et donc Lordon, eh ben, il est anti-tri des déchets. Alors bien sûr, c'est pas son principal combat, hein. Lordon ne passe pas ses journées à militer contre le recyclage. Il a deux ou trois sujets qu'il travaille un petit peu plus, de type abattre le capitalisme. Néanmoins, il s'en cache pas et il l'argumente. Ce qu'il nous dit, c'est que le tri des déchets, dans notre système actuel, c'est bon pour Veolia, qui fait des économies de masse salariale. Dans le sens où si nous on trie à la maison, c'est moins de gens sur les tapis roulants pour eux. Et chez Veolia, comme dans la plupart des entreprises privées, économie de masse salariale, ça veut dire augmentation des dividendes. Le jeu, c'est d'engraisser les actionnaires, ça, c'est pas un scoop. Donc, en triant nos déchets à la maison, on met des sous dans les poches des actionnaires de Veolia. C'est un peu raccourci, mais c'est l'idée. Pour lui, l'étape d'après pour Veolia, c'est de faire en sorte que nous amenions nous-mêmes nos déchets en centrale de tri pour finalement nous dire « Bon, bah, puisque vous êtes là, mettez-vous 5 minutes sur le tapis roulant, c'est bon pour la planète. » Ah oui, parce que pour rappel, quand une entreprise privée te dit que c'est bon pour la planète, en général, c'est plutôt bon pour eux. Si les groupes industriels aiment tant le recyclage, c'est parce que ça permet qu'il n'y ait pas de programme contraignant de réduction des déchets à la source. Il faut se rappeler que les groupes industriels ont une capacité d'action collective assez phénoménale à en faire baver la gauche, et ils ont réussi à faire en sorte que la question des déchets, ce soit une affaire de responsabilité individuelle. À cause d'eux, les déchets, c'est une histoire de responsabilité écologique du consommateur, mais c'est complètement déconnecté de la question de la production de ces déchets. Donc c'est complètement déconnecté d'eux. J'aurais pas le temps de vous parler de Figure communiste, le dernier bouquin de Lordon où il développe une organisation sociale possible, souhaitable et salvatrice, une organisation communiste donc. Et notamment, il montre comment cette question des déchets, si on l'extirpait d'une logique capitaliste d'entreprise privée, eh ben ça pourrait relever de l'intérêt commun. Ça pourrait être une tâche d'intérêt collectif effectuée par toutes et tous. Et alors, plus aucun souci avec le tri. Puisque, on l'aura compris, le problème du tri, c'est uniquement la logique capitaliste dans laquelle il est pour le moment enfermé. Donc, continuez à trier vos déchets. Bien sûr, l'objectif de ma chronique, c'était pas que vous arrêtiez, surtout que c'est particulièrement pas dans mon intérêt pour ces 4 prochains jours. Mais ne faites jamais confiance aux groupes industriels quand ils vous veulent du bien ou qu'ils veulent du bien à la planète. Et puis lisez Figure communiste de Lordon pour vous faire une meilleure idée de ce que pourrait être un monde post-capitaliste souhaitable.
Et on vous dit merci, monsieur Poubelle.
Timbali, c'est aujourd'hui et pour demain.
Timbali, c'est aujourd'hui et dès demain.
Eh, mais c'est quoi cette chanson?
Ça, mais tu connais pas, c'est la Dimbalade, le chant de Dimbali, le dernier grand rassemblement des éclés.
Ah bon, mais c'était quand ça?
2008.
Ouah, ça date! Mais c'est quand le prochain?
Le prochain? Bah, c'est le grand bivouac! Au programme, itinérance, autonomie des jeunes, technique de camp, transition écologique et scoutisme pour toutes et tous.
Ouah, ça donne trop envie! Mais c'est quand?
Bon, bah, ça démarre en 2022 et le grand rassemblement est prévu à l'horizon 2023-2024.
Mais pour le construire, on a besoin de toi!
Et toi aussi là-bas qui est en train de manger tes œufs brouillés?
Et de toi qui bois ton café?
Et de toi qui est en train de te réveiller.
Et aussi de vous tous qui nous écoutez.
Rejoins vite notre équipe ultra motivée.
Toutes les infos sur les panneaux d'affichage du Béco.
Béco, 40 plus 1, les coulisses.
Béco, 40 plus 1,
Béco,
les coulisses.
40 plus 1, les coulisses.
Béco, 40 plus 1, les coulisses.
Béco, 40 plus 1, les coulisses.
Bécourt, 41 plus 1, les coulisses.
Non, c'est 40 plus 1.
41 plus 1, oui, ça fait 42, donc ouais. Ça marche pas.
Non.
Mais je peux refaire.
Ouais.
Du coup, je refais là maintenant tout de suite.
Ouais.
Ok. Bécourt, 40 plus 1, les coulisses.
Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots d'amour. Les bye bye, arrivederci, les bonsoir, etc. Les saluts, les comment ça va, sont déjà des mots d'amour. Les farewell.
Dépose des petits mots dans la boîte de la radio. Elle est sous la giga du brunch, à côté de l'enceinte.
Tous les mots que l'on se lance, les petits mots de tous les jours, on les croit sans importance, mais ce sont des mots d'amour.
Yes. Et du coup, je suis avec Tim et Margot, qui sont dans l'équipe pain là, pour les 41 ans de Bécourt, et qui sont aussi dans un autre collectif qui s'appelle Liberben. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que c'est que Liberben ?
Aujourd'hui, Liberben, qu'est-ce que c'est ? C'est un collectif d'une trentaine de personnes qui fait de la voile. Donc la voile, c'est un sport, c'est un loisir plutôt de riche et pas accessible. Et l'idée de notre collectif, c'est de faire de la navigation plus accessible. Donc que ce soit le fait de naviguer, mais aussi de pouvoir faire des chantiers sur des bateaux, apprendre à réparer, bricoler des bateaux, s'auto-former, etc. On va dire que notre objectif central, c'est de faire de la navigation sans chef. Ce qui est une autre partie, c'est que la voile, c'est plutôt un sport très hiérarchisé, où il y a toujours un capitaine. Et du coup, nous, on essaye qu'il y ait des femmes qui fassent de la voile ou des personnes non mecs cis. Et du coup, on fait des événements culturels et festifs pour avoir des sous et rencontrer des personnes. On fait des flottilles, donc on part à plusieurs bateaux en mer. On fait des chantiers sur nos voiliers, parce qu'on en a trois, dont un bateau qui est entièrement retapé sans mecs cis, donc en mixité choisie.
Comment ça se passe de partir à plusieurs bateaux, tout ça ? Racontez un peu ce délire-là.
Par exemple, cette année, on a fait en deux parties surtout. Une première partie à terre, où on a passé pas mal de temps à discuter de comment on voyait la navigation, en termes de relations humaines, en termes de prise de risque, d'organisation collective. Essayer un peu de mettre le doigt sur des enjeux qui avaient pu poser problème dans d'autres flottilles et voir un peu qu'est-ce qu'on voulait mettre en place pour pas reproduire comme d'hab les mêmes trucs un peu violents ou les mêmes schémas oppressifs ou quoi. Et du coup, on a passé pas mal de temps à discuter de ça et à faire des petites fiches pour savoir comment on préparait une navigation pour que ça se passe bien et que les gens se sentent vraiment intégrés à la navigation et qu'on ne dépasse pas les limites des gens et que les personnes qui sont un peu référentes, responsables du bateau, outrepassent pas leur pouvoir et commencent pas à oppresser tout le monde sur le bateau, par exemple. Et du coup, voilà, on constitue les équipages et puis après, on part 2 semaines en flottille. C'est assez intense, hein, il faut préparer les naves, savoir où est-ce que les bateaux se retrouvent, se coordonner entre les bateaux, se préparer sur les bateaux. Et puis après, c'est faire les trajets, quoi. C'est là qu'on kiffe vraiment. Et puis se retrouver au mouillage le soir. Et c'est reparti en mode d'orga connective entre les bateaux et tout. C'est hyper cool, mais hyper intense. On est bien crevés à la fin, mais c'est des naves chouettes. Et puis on partage plein de trucs tout ensemble. Du coup, c'est vraiment cool.
Moi, ce que je trouve chouette dans notre collectif, c'est que on a toute envie de construire des trucs ensemble, au-delà du support qu'est le bateau, quoi. Et dans notre collectif, il y a beaucoup de personnes qui sont issues des éclés. C'est pas un hasard, en fait. Je pense que c'est des réseaux affinitaires. Et puis, il y a eu des racolages, entre guillemets, de copains-copines un peu partout. Puis, au final, on est quand même une bonne majorité d'éclés. Et ça transparaît pas mal sur l'organisation de la Vicote, mais aussi, par exemple, en fait, il y a des personnes qui n'ont jamais fait de réunion dans leur vie ou qui n'ont jamais pris le temps de faire des points météo, comme on peut l'appeler en conseil de vie sur des camps éclés, quoi. Donc nous, on fait beaucoup ça, on prend beaucoup de soin, on essaye de prendre beaucoup soin de notre groupe humain, quoi, des personnes. Et je trouve que ça donne un truc assez cool, quoi. Enfin, on est plusieurs à se dire souvent qu'on aime bien être dans ce collectif pour toutes ces discussions et tous ces moments où on apprend à vivre avec d'autres personnes, à entendre les limites d'autres gens, à s'organiser, etc., à vivre des aventures ensemble.
L'accordéon du vieux Joe, envoyé du matelot, tous des embruns au fond des yeux, et ça te reprend chaque fois qu'il pleut. Mon petit garçon, mais dans ta tête, y a les chansons qui font la fête, et crois-moi, depuis le temps que je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines, de Macao à la Barbade. Ça fait une paix que je me balade, et le temps qui passe a fait au vieux une bordée de rides autour des yeux. Vas-y, Joe, fais-nous lire l'anglais, t'as appris quand tu naviguais. Pendant ton escale à Galway, du temps où t'étais tribordé, du temps où c'était pas la joie, veillez au grain dans les pavois, les mains coupées par le vent glacé, sans même la force de fredonner. Mon petit garçon, mets dans ta tête, y'a des chansons qui font la fête, et crois-moi, depuis le temps que je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines, de Macao à la Barbade. Ça fait une paix que je me balade, et le temps qui passe a fait au vieux une bordée de rides autour des yeux. Quand on sera sous comme des bourriques, on ira chanter sur les quais, en rêvant des plages du Mexique, des chants des navires contrebandiers, là sur la bouline envoyée. Quand la boiteuse va au marché, quand on virait au Cabestan, et toutes ces vieilles chansons d'avant. Mon petit garçon, mets dans ta tête, y a des chansons qui font la fête, et crois-moi, depuis le temps que je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines, de Macao à la Barbade. Ça fait une paix que
que je me balade. Et le temps qui passe a fait au vieux une bordée ride autour les yeux.
On a oublié de couper.
Oui. C'est le dernier.
Non, c'est pas le dernier là.
Non, non c'est celui-là.
Après, il y aura de la gueule aussi.
Ouais, t'as le frère de la côte là.
Quand même un frère de la côte.
Et même si t'as pas navigué.
Ah oui, quand on, dans le vent du nord là, la voilure à le vent du nord.
Oui, ça on l'a déjà fait ça.
Ah oui.
Merde, merde.
Bon, petit garçon.
Allez, bon, frère quand même.
On dit que la meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. Et toi alors, c'est quoi ta contraception ? Dans cette chronique, on se parle de contraception, de est-ce qu'on en a besoin dans nos pratiques sexuelles ? Et si oui, pourquoi on a choisi celle-là ? Pourquoi on a changé ? Comment on a changé et comment ça nous va aujourd'hui ?
Est-ce que tu peux me parler un peu de toi, la contraception que tu utilises aujourd'hui ?
Ouais. Moi j'ai une pilule actuellement, je l'ai depuis décembre. Je l'ai prise parce qu'avant j'avais un stérilet et j'ai voulu changer.
T'avais un stérilet comment ?
Au cuivre. J'avais okay. un stérilet taille short au cuivre et ça m'allait plus parce que ça m'avait augmenté les douleurs des règles et le flux et c'était un peu chiant quoi. Au bout de 5 ans j'ai dit stop. Du coup je suis repassée à la pilule un peu par dépit, je sais pas comment dire. C'était un peu le seul choix qui me restait parce que les autres me tentaient pas ou n'étaient pas remboursés. Et du coup, là, j'ai une pilule, mais ça me convient pas forcément parce que je l'oublie une fois sur deux. Parce que du coup, j'ai des humeurs qui vont à droite, à gauche, en haut, en bas. C'est un peu dur à vivre pour les autres.
Et du coup, est-ce que, un peu dans ton histoire contraceptive, comment t'en es venue au stérilet ? Est-ce qu'avant, t'avais d'autres trucs ? Enfin, c'est à quoi un peu la...
Alors, j'ai mon histoire contraceptive, elle a un début un peu émotionnel. Pour moi, parce que la première fois que je suis allée voir une gynéco pour ça, elle a refusé de me poser un stérilet, mais c'est ce que je voulais depuis le début. Elle m'a imposé la pilule en fait. Donc je suis sortie, j'ai pas eu ce que je voulais, je suis sortie avec une prescription pour une pilule que j'ai essayée du coup. Mais du coup je faisais des malaises, j'avais des bouffées de chaleur, je supportais pas la pilule. Et du coup j'ai arrêté cette contraception là et c'est comme ça que j'en suis venue au stérilet en fait. On m'a conseillé une sage-femme. Et du coup, cette personne a été très très cool, on a beaucoup discuté. Elle m'a dit qu'effectivement, ça existait des stérilets à taille short pour les jeunes filles. Et que si je le voulais, elle pouvait m'en poser un. Et du coup, un mois plus tard, c'est bon, j'avais mon stérilet.
Et du coup, pourquoi t'avais choisi au cuivre à ce moment-là ?
Parce que je voulais pas d'hormones.
Ok.
Voilà.
Et du coup, au début, plutôt, c'était un choix qui t'allait. Et puis progressivement, c'est devenu...
Ouais. Bah, c'est devenu compliqué en fait d'avoir ces règles. Je les avais une semaine. Donc, je les avais une semaine, mais c'était une semaine tous les deux mois ou toutes les trois semaines. Enfin, c'était vraiment c'était pas un cycle bien bien réglé. Le stérilet a aussi eu pour effet d'augmenter sensiblement mon flux. C'était vraiment c'était les chutes du Niagara quoi. J'en pouvais plus et ça augmente aussi beaucoup les douleurs. Et ça a pour effet aussi de déstabiliser parfois la flore bactérienne du vagin. Et du coup, j'ai chopé pas mal de cystites et de trucs pas très très cool. Mm. Et du coup, à la fin, j'étais un peu fatiguée de devoir constamment aller chez ma gynéco parce que ça allait pas ou juste d'être pliée en quatre dans mon lit parce que j'avais trop mal. Donc je suis repassée à la pilule, mais c'est que temporaire. Je pense que je vais changer.
C'est quoi dans l'idéal que t'aimerais ou là tu voudrais changer vers quoi ?
Un truc qui m'impose pas de charge mentale, de me dire tous les jours il faut que je l'apprenne le machin, un truc qui n'est pas non plus d'effet néfaste sur mon corps comme les hormones peuvent en avoir parfois. Et du coup c'est un petit peu compliqué. Là je vais me pencher vers les anneaux, mais c'est pas remboursé pour l'instant par la Sécu apparemment. Et ça coûte un peu cher, enfin j'ai pas trop le budget à mettre dans les anneaux.
Et du coup, puisque les anneaux, il y a des hormones ?
Ouais, il y a des hormones, mais vu qu'elles sont, elles sont beaucoup moins concentrées, parce qu'elles sont directement, enfin, tu mets directement l'anneau dans ton vagin, alors que la pilule, elle passe par ta bouche et elle doit traverser tout ton système digestif pour, coup, pour arriver en bas.
Dans cette logique-là, est-ce que tu as réfléchi aussi au stérilet hormonal et pourquoi tu...
J'y ai réfléchi, mais je souhaite pas avoir les mêmes effets qu'avec le stérilet au cuivre, puis le stérilet qui tombe aussi, les fils, c'est okay. Un peu chiant, quoi. Après, il y a un truc qui me freine aussi dans le stérilet hormonal. Ma mère en a un et elle a plus ses règles. Ouais. Et c'est un truc, psychologiquement, je ne suis pas capable de ne plus avoir mes règles. Ça me perturberait beaucoup, beaucoup trop.
Ça, c'est rigolo parce qu'au début de la mise au point de la pilule, ils avaient pensé la pilule comme un truc qui se prenait en continu et donc les personnes n'avaient plus de règles puisqu'en fait, c'est des règles artificielles qu'on a sous pilule. Et en fait, ça a perturbé beaucoup, beaucoup de femmes.
Ouais.
Et du coup, c'est là qu'ils ont mis au point la formule où t'interromps la plaquette pour pouvoir avoir tes règles et reprendre à l'issue.
C'est con à dire, mais je veux avoir mes règles, quoi. Mais non, je pourrais pas avoir une contraception qui me coupe mes règles. Ça me perturberait beaucoup trop et je pense que je finirais par faire 4 tests de grossesse par mois parce que ce serait beaucoup trop flippant.
Et du coup, est-ce qu'avec tes partenaires, c'est un truc dont tu causes la contraception ou plutôt, en fait, c'est toi qui t'en charges seule, quoi ?
C'est moi qui m'en charge. J'aimerais bien. J'aimerais bien en causer, mais j'ai discuté avec une amie où son copain, enfin son partenaire était allé, il était allé consulter, je sais plus comment s'appelle, mais un spécialiste et qui lui avait dit, mais enfin, faut pas prendre les contraceptions pour hommes, il y a des effets au long terme, ça va pas. Et j'avais trouvé ça très très rigolo. Du coup, j'avais rigolé un petit peu jeune, mais j'aimerais bien en parler avec mon copain, mais je pense que c'est pas le genre de truc. Auquel lui penserait et auquel il voudrait se renseigner, quoi.
Est-ce que au-delà du fait que ton ou tes partenaires ils aient eux une contraception ou une démarche contraceptive, est-ce que déjà ils s'intéressent à ta contraception?
Non, pas du tout. Il y a du monde pour me dire putain, t'as pas pris ta pilule, c'est chiant, quoi, mais pour demander comment ça marche, qu'est-ce que ça fait, de mémoire, j'ai jamais eu cette question. Ouais, c'est moche.
Ouais, c'est moche.
C'est très très moche. Voilà.
Eh bien, merci.
Avec plaisir.
Et puis, à demain pour de nouvelles aventures sur la contraception.
Bécourt, 40 plus 1, les coulisses.
Bécourt, 40 plus 1,
Bécourt,
les coulisses.
Bécourt, 40 plus 1, les coulisses.
Bécourt, 40 plus 1, les coulisses. Bécourt,
40 plus 1, les coulisses.
Bécourt, 40 plus 1, les coulisses.
Non, parce qu'en fait, la bobine, on ne va pas la faire passer à l'intérieur de ça.
Ah non, oui, c'est ça.
Il faut la découper et après...
Ok, je peux prendre ça, ça peut...
Mais parce que l'idée, c'est que tu tends ta ficelle, tac, tac.
Non, de toute façon...
Ah, moi, je pensais qu'on plantait tous les clous.
Non,
mais si, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire parce que...
C'est quelqu'un. C'est faire un péage.
Non, mais alors, je t'explique.
On va regarder un tuto sur YouTube. Sur le site des scouts d'Europe, on va bien trouver ça.
Non, mais je t'explique. C'est que le truc là, on peut pas planter les manches à balai pour l'instant parce qu'on n'a pas la mèche.
Mais je sais pas
faut.
Pourquoi tu veux.
Et parce que c'est les branches de l'arbre, ça va être les manches à balai.
D'accord.
Sur lesquelles on va mettre des pH. Mmh. Sauf que là, on n'a pas la mèche qu'il faut pour fixer les manches à balai.
D'accord.
Donc en fait,
il faut
on peut
acheter.
Pas. Non, elle doit arriver, je sais pas comment. Elle n'est pas arrivée.
Ok.
Et du coup, il faut d'abord clouer les clous, après on met les branches et après on met la ficelle.
Je pense que ça marche pas. Comment tu veux galérer avec une ficelle à passer dans ce truc?
Bah oui.
Mais t'as vu la taille du truc?
C'est chiant à planter ça en plus. Les cavaliers.
D'accord, comment faire ça?
Non mais regarde, passe une ficelle là-dedans.
Mais une ficelle.
C'est quoi ta ficelle?
C'est pas une ficelle ciselle, c'est une ficelle à rôti.
Une ficelle à rôti?
Mais oui, parce qu'elle est fluorescente. Elle est fluorescente.
Ah, classe.
Ah, une ficelle à rôti fluorescente.
Une ficelle à rôti fluorescente.
Pourquoi on fait pas un rôti fluo plutôt?
Bah, on peut faire ça si tu veux, c'est ouvert.
Moi, je pense que ça va être chiant à passer, mais.
Non mais on va trouver des petits clous.
Mais c'est qu'on n'a pas encore la ficelle à rôti fluorescente, c'est ça?
Non.
Oui.
Quand on a que les clous, quoi.
Bah, on n'a même pas les clous. Moi, on a les manches à balai colorées.
Mais on peut pas les mettre dans l'arbre.
Mais il n'y en a pas la mèche.
Elle va être dure, mon après-midi.
C'est quoi cette histoire de fil là? Qu'est-ce que tu fais, Alexis? Donc Alexis est en train d'essayer de dépatouiller un fil à rôti qui a l'air d'avoir été enduit d'une substance.
Absolument. Alors il se trouve que malencontreusement, il y a eu un énorme coup de vent tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu la tempête. Bref, la bobine de fil est tombée dans le pot de peinture. J'ai essayé de l'en tirer de manière efficace. Ça n'a pas bien fonctionné. Je l'ai donc mise à sécher au soleil. Et là, maintenant qu'elle a un peu séché, j'essaye de faire en sorte de défaire ce nœud qui est un nœud horrible. Voilà.
Non, ce qui est bien, c'est qu'on voit que vraiment ce pH aura occupé deux personnes sur à peu près 72 heures. Hein, donc on est sur un ratio utilité, temps de travail.
Attends, parce qu'on n'a pas fini. Hein.
C'est quand même notre premier pH à tous les deux.
Oui.
Et je tiens à dire qu'on espère recevoir un badge pH parce que je pense que peu de gens, peu de scouts au monde auront fait un pH aussi.
Phosphorescent déjà.
Aussi phosphorescent et aussi ambitieux pour leur premier pH.
Exactement.
Voilà. Eh bien écoute, nous te souhaitons bon courage.
Ouais, mais je vais bientôt abandonner, vous en faites pas.
MTTE, le micro-trottoir, trucs et astuces. Est-ce que vous avez des trucs et astuces pour penser à vous doucher ou pour vous doucher encore?
Je regarde mes pieds.
Ta jauge.
Je suis en sandales et le matin je me lave que le soir et du coup quand mes pieds sont plus marrons que ma peau normale, je me dis que c'est l'heure de me laver.
Juste une question d'habitude en fait, c'est tout. Quand je suis sale et je le sens parce que je glisse plus que je colle. À force de poussière et de crasse.
Donc en fait pour savoir quand est-ce qu'il est l'heure de te doucher, tu tâtes la cuisse.
Je me tâte un peu la peau.
Ouais.
Je me dis, ah, là mon doigt s'enfonce dans la crasse.
Moi je suis calé en fonction de mes louveteaux. Mes louveteaux se lavent en moyenne soit tous les jours, soit tous les deux jours, suivant la crassitude des louveteaux. Mais je fais la même.
Et du coup tu y penses quoi? T'arrives à trouver le temps?
Bah oui. Bah, c'est super important l'hygiène en fait, en même temps t'es obligé de trouver le temps. Même si c'est 1h du matin ou très tôt le matin.
Et est-ce que des fois t'as pas l'obstacle de. Il faut que j'aille jusqu'à ma tante prendre mes affaires.
Si, mais ça arrive au moins une ou deux fois en camp où tu dis ouais, juste la flemme, je ferai ça demain, quoi, et puis tu t'écroules dans la tente. Et...
J'ai eu une idée de génie. Hier soir, après le repas, je suis allée chercher une lampe torche, tu vois, parce qu'il allait faire nuit, enfin une lampe frontale. Donc je suis allée à ma tante qui est un peu loin. Et du coup, une fois arrivée à ma tante, je me suis dit tu vas prendre toutes tes affaires. La serviette, la trousse de toilette, ton pyjama, les affaires de rechange. Et j'ai tout pris et j'ai tout monté jusqu'à la douche que j'ai posée là, donc c'était 20h. Comme ça, quand je suis partie me coucher hier soir après quelques verres de bière, eh bien, je suis arrivée aux douches et là, mes affaires m'attendaient, tu vois. Et c'était génial parce que j'ai pas eu à retourner à la tente. Tu sais, ce moment où tu retournes à la tente et tu te dis... Bon, en fait, je vais plutôt me coucher qu'aller me doucher. Et bien là, j'ai pas eu ce moment-là. Direct, j'ai pris ma douche.
Et ben, alors moi, c'est un peu le même genre, sauf que moi, je suis genre à me lever le matin et à me doucher le matin pour bien finir de me réveiller. Ben, dans le même genre, j'aime bien préparer mes affaires pour la douche et les préparer sur le chemin de la douche. Alors, parce que je dors dans un hamac, donc j'ai pas trop de place pour les ranger. Enfin, c'est chiant de dormir dans son hamac avec ses affaires de douche. Donc, je les mets sur le chemin de la douche à un endroit stratégique.
Ce qui peut être difficile, c'est que si tout le monde se met à faire ça, il va y avoir des affaires de douche qui vont partout
c'est
sur le chemin.
Ça.
Et là,
donc il faut
ça
bien peut-être mettre des affichages pour dire si vous croisez des affaires de douche, ne les enlevez pas.
Déjà,
elles sont utiles.
Et sinon, il faudrait avoir chacun son petit sac à douche, comme les louveteaux qui ont leur petit sac à gamelle, et on pourrait suspendre les sacs à douche de chacun au niveau des douches.
Tombe, et nous aurons la liberté. C'est
Les éclaireuses, on s'entend. Dans cette chronique, on va balayer le siècle écoulé qui a vu la naissance de la Fédération française des éclaireuses en 1921. Aujourd'hui, on commence par le commencement, c'est-à-dire la naissance des éclaireuses. La Fédération française des éclaireuses, elle va réunir pendant 50 ans les éclaireuses neutres, aujourd'hui on dirait les éclaireuses laïques, les protestantes unionistes et les éclaireuses israélites, au sein d'un même mouvement, donc la Fédération. Cette fédération, elle est née dans un contexte historique qui est marqué notamment par le renforcement de mouvements qu'on pourrait appeler des mouvements d'œuvre sociale. Pour schématiser à très très grands traits, c'est une période de développement de beaucoup d'initiatives sociales portées par plutôt des bourgeois et des bourgeoises de foi chrétienne, c'est-à-dire catholiques ou protestants-protestantes, en direction des classes sociales modestes ou prolétaires. Et ce développement d'œuvre sociale, il se fait en parallèle et pour une partie en réaction à un autre développement d'initiatives sociales qui est le développement d'initiatives sociales autogérées à la fin du XIXe siècle. Donc autogérées, c'est-à-dire des organisations où ce sont les classes sociales laborieuses et les ouvriers et les ouvrières eux-mêmes et elles-mêmes qui s'organisent. Donc c'est notamment tout le développement des bourses du travail, des maisons du peuple à la fin du XIXe siècle, dans le contexte aussi d'un courant syndicaliste révolutionnaire qui était très fort à l'époque, et qui voyait dans l'organisation de ces lieux une manière aussi de développer la conscience de classe des travailleurs et des travailleuses, et de développer une autonomie politique et culturelle pour répondre à ses propres besoins sociaux. Donc la naissance de la FFE, elle a deux foyers, un peu deux sources, deux endroits où les éclaireuses naissent et après qui se rejoignent, et à ces deux endroits, on est vraiment en opposition avec cette logique d'auto-organisation ouvrière. C'est dans les deux cas des personnes qui sont plutôt d'origine bourgeoise qui vont s'intéresser à développer de l'action sociale pour les personnes plus modestes qu'elles. Donc dans ces deux sources, il y a l'Union chrétienne des jeunes filles et le foyer laïque de la rue Mouffetard. Donc si on commence par s'intéresser à l'Union chrétienne des jeunes filles, donc les unions chrétiennes des jeunes filles, en fait, vous en avez sans doute déjà entendu parler, mais sous un autre nom. Quand on parle des YMCA aux États-Unis, en fait, on parle des unions chrétiennes de jeunes gens. Alors, YMCA, c'était pour les garçons, et il y avait les YWCA, qui étaient pour les filles, donc les, en français, les unions chrétiennes de jeunes filles. En France, c'est des mouvements donc protestants qui sont liés à un mouvement spirituel qui s'appelle le Réveil, et qui se donnent comme objectif d'apporter une aide matérielle et un soutien moral à des jeunes filles isolées, aussi dans une perspective d'évangélisation de ces jeunes filles. Ça prend plein de formes différentes, ça peut être des foyers d'hébergement, dont certains existent toujours, des activités de couture, d'études bibliques, d'hygiène, de gymnastique, des séjours à la campagne, des conférences, et même de l'aide pour trouver un emploi. Et ces unions chrétiennes de jeunes filles, elles sont dirigées et organisées essentiellement par des protestantes bourgeoises, voire aristocrates. Et elle distingue ces membres qui ont fait profession de foi chrétienne, comme on dit, et les membres associés pour qui les activités sont organisées, qui, elles, sont des employés, des domestiques, des ouvrières, et dont on leur demande d'aspirer sincèrement à une vie morale. Donc pour ce qui est des éclaireuses, une des figures importantes, c'est Camille Savary. Camille Savary, elle est membre d'une union chrétienne de jeunes filles à Paris, et elle dirige la mission populaire de la rue Marcadet, qu'on a appelé aussi la Maison Verte, et c'est un des principaux, voire le principal foyer de naissance des éclaireuses côté unioniste. Elle est au début très préoccupée par l'hygiène, la pureté morale, la vie morale des jeunes filles. Et quand le scoutisme apparaît pour les garçons, elle charge une autre grande figure du scoutisme féminin, Antoinette Butte, de créer une section d'éclaireuses en 1916 à cet endroit-là. Mais en même temps, les personnes qui sont impliquées dans les UCJF, donc les Unions Chrétiennes de Jeunes Filles, ben, à force de côtoyer et d'organiser des activités pour des jeunes filles de conditions modestes, ben, elles se rendent compte aussi un petit peu de c'est quoi la condition matérielle au quotidien de ces jeunes filles-là. Et donc, elles vont aussi développer d'autres activités, et notamment, par exemple, Camille Savary, elle va impulser la création d'un syndicat chrétien du travail féminin à partir de 1912, et les déléguées françaises des unions chrétiennes, un peu plus tard, en 1920, à l'Assemblée mondiale des unions chrétiennes, elles votent des vœux concernant le travail des femmes, les congés maternité, l'interdiction du travail de nuit pour les femmes, les enfants, etc. etc. Donc Camille Savary, elle est importante aussi parce que ça a été la première présidente de la Fédération française des éclaireuses, même si à l'époque c'était un rôle qui était principalement honorifique et représentatif, c'était pas elle qui a structuré en tant que telle la fédération. L'autre foyer de naissance du scoutisme féminin, c'est la rue Mouffetard à Paris, dans un courant qui est plus laïque. Alors, la rue Mouffetard, peut-être que certaines d'entre vous la connaissent. Aujourd'hui, c'est une rue très touristique. Mais à l'époque, c'est un endroit qui est vraiment un quartier populaire de Paris. C'est un quartier pauvre, il y a des taudis, il y a du mal logement, il y a des conditions de vie qui sont très difficiles. Cet endroit-là de naissance, on le qualifie plutôt de laïque. Mais en fait, il a des racines qui sont tout à fait chrétiennes, puisque... il a été porté par plusieurs personnes qui sont sionistes. Donc sionistes, c'est des personnes qui sont passées ou qui sont inspirées par le mouvement du Sion. Le Sion, c'est un mouvement de catholicisme social. Donc le catholicisme social, c'est un peu un mouvement qui naît au milieu du 19e siècle et qui se développe fortement sur tout le 20e siècle. Et en ce qui concerne le Sion, c'est une organisation qui vise à refaire du lien entre les ouvriers et les ouvrières, l'Église catholique, et aussi la République. Dans le Sion, l'ambiance elle est un peu nouvelle pour l'Église, avec l'idée que la vérité ne tombe pas du haut, elle tombe plus de l'institution, de l'Église, mais c'est l'échange entre les personnes qui prime. Et le mouvement du Sion, c'est un mouvement qui rassemble jusqu'à 25 000 personnes en France au début du XXe siècle. Il est vu ensuite comme trop moderne et il finit par déplaire à l'Église. Marc Sangnier, qui est le fondateur du Sion, lui, il dit que le Sion a pour but de réaliser en France la République démocratique. Et donc, pour lui, le Sion est un mouvement laïque qui pense vraiment comme une manière de refaire du lien entre l'Église et les classes ouvrières. Donc, au foyer de la rue Mouffetard, il y a une personne qui s'appelle Kate Descroix, qui arrive en 1905. Donc, Kate Descroix, elle est passée par le Sion et elle décide d'ouvrir dans cette rue Mouffetard un lieu qui s'appelle « Chez nous ». Qui est une sorte de centre social, même si à l'époque ça n'existe pas vraiment encore, où il y a un certain nombre d'activités. Donc on accueille les gens du quartier, on fait des activités avec elle et eux, on les accompagne. Il y a un bar sans alcool, il y a du cinéma, il y a des discussions, etc. Donc c'est dans cet endroit qui s'appelle donc chez nous que vont naître tout un ensemble d'activités de scoutisme laïque. Alors par exemple, c'est là que va naître la branche Louveteau. Des éclaireurs, sous l'impulsion notamment d'une dame qui s'appelle Marthe Levasseur. Mais c'est aussi à partir de là que vont se développer des groupes d'éclaireuses laïques. Alors, même si en fait, à l'époque, on dit neutre, hein, puisque l'idée, c'est que toutes les petites filles puissent participer au scoutisme et pas uniquement celles qui se reconnaissent dans une spiritualité chrétienne. Donc là, c'est plutôt le domaine de Marguerite Walter. Donc Marguerite Walter, c'est clairement une grande bourgeoise d'origine alsacienne. Elle est protestante, elle a été infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Et en fait, elle croise Kate Descroix qui s'est implantée rue Mouffetard, qui lui parle de ce lieu centre social. Et puis elle, au retour de la guerre, elle décide de s'y impliquer. Elle entend parler du scoutisme par son neveu qui est éclaireur unioniste et elle décide de le développer pour les filles. Alors un peu dans une double démarche, pour elle il y a deux choses. Il y a un peu les protéger des tentations, le côté un peu pureté morale, leur enseigner un haut idéal moral. Donc pour elle l'idéal c'est important, même s'il n'est pas religieux, on doit avoir un idéal dans la vie. Et l'autre dimension c'est pour qu'elles apprennent à se défendre. Elle utilise ces mots-là, pour qu'elles apprennent à se défendre. Quand elle crée les premières éclaireuses neutres, elle a le réflexe de contacter d'autres personnes qui ont déjà lancé des éclaireuses, donc celles dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire celles qui ont lancé des éclaireuses au sein des unions chrétiennes de jeunes filles, c'est-à-dire des protestantes. Et elle se dit, faisons du lien, et elle commence à en discuter. Donc elle voit bien qu'elles ne sont pas tout à fait sur la même approche spirituelle, mais elle pense qu'elles peuvent rejoindre leurs efforts. Et elle va beaucoup jouer pour unir ces deux mouvements, ces deux foyers de naissance des éclaireuses, en un seul, qui va devenir la Fédération française des éclaireuses en 1921 au congrès fondateur. Et ensuite, elle sera commissaire générale, aujourd'hui on dirait déléguée générale de la FFE pendant 10 ans. Donc c'est vraiment une des très grandes figures de structuration de la FFE. Donc ce qu'on peut retenir de ces deux foyers de naissance du scoutisme féminin en France, c'est que ce soit les unions chrétiennes de jeunes filles ou les personnalités sionistes devenues laïques, dans les deux cas, ce sont plutôt des bourgeois et des bourgeoises, en l'occurrence des bourgeoises, qui s'occupent de personnes plus modestes. Et en même temps, ça joue, puisqu'en fait, pendant les 10-15 premières années, le mouvement des éclaireuses y recrute très très majoritairement dans des milieux modestes, voire très modestes. Par exemple, en 1923, on a une trace d'un carnet de cheftaine de la section Paris-Montrouge, qui résume l'origine sociale des éclaireuses de l'année. Donc sur les 23 éclaireuses, il y a une majorité des jeunes filles qui sont déjà dans le monde du travail. Donc, les éclaireuses, elles ont moins de 16 ans. Alors, à l'époque, ça, c'est très récent encore que le baccalauréat soit ouvert aux filles, ça date de 1905, et l'enseignement supérieur n'est pas encore vraiment ouvert aux filles. Mais dans cette unité-là, la majorité des jeunes filles, elles travaillent. Et notamment, il y en a une qui est apprentie couturière, une qui est apprentie brocheuse, donc encore en formation, et 10 qui travaillent déjà. Il y en a une tricoteuse, une cravatière, une giletière, une cartonnière, une ouvrière de la fourrure, une ouvrière de la brochure, une ouvrière de laboratoire, une bonne et une comptable. Pour terminer cette première chronique, je vais vous lire un extrait d'un article de Anne-Sophie Folimel qui s'est intéressée aux origines du scoutisme féminin en France et qui dit « Les femmes bourgeoises, diront certains, avaient du temps devant elles. Rien pourtant, sinon elles-mêmes, ne les avait poussées à fonder un mouvement totalement neuf. Si leur désir était là, c'est bien que ces pionnières avaient la volonté de faire ce qui leur semblait bon et vraiment utile pour les jeunes filles modestes. Mettant de côté les conventions sociales qui les auraient cantonnées dans une œuvre de charité, elles ont décidé de concrétiser leur volonté d'aider les autres en travaillant dans les quartiers populaires. Le scoutisme ne fut en réalité qu'un autre moyen d'expression de cette volonté créatrice.
Le ciel est bleu, réveille-toi, c'est un jour nouveau qui commence. Le ciel est bleu, réveille-toi, les oiseaux chantent sur les toits. Réveille-toi.
Bang bang, la police sort les guns, bang bang, les bagues sur les jeunes, bang bang, la police sort les gueules, bang bang bang. On cause d'égalité, pour les gars c'est décidé. Je ne compte oh, la police amène des failles au cimetière. Et bang bang, on sort les flashballs, et bang bang, on tire sur la goule, et bang bang, on sort les flashballs. La loi vient faire l'ulaire, les boules sont des bien mères. L'histoire de Yann de l'Opé, qui venait de la Hopina. Et bang bang, on joue les bandes qui tournent, bang bang, les sirènes qui telles sonnent, bang 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 bang. La loi vient faire l'ulaire, il n'y aura pas de paix. Quand la police a aux affaires et qu'on sera en plein zone. Bang bang, c'est la jeunesse d'Assour. Bang bang, dès que le buteur joue. Bang bang, c'est la jeunesse d'Assour. Notre tour arrivera, grand rap et night shum time. Je chante que la chatte sera douce pour les garciers de l'État. Et bang bang, yeah yeah bang bang. Yeah bang bang, et bang bang. Bang bang, la police sort les guns, bang bang, les bacs sur les jeunes. Bang bang, la police sort les guns, bang bang, bang bang bang. En cause d'égalité, pour les gars c'est des cités. Y'en ne comptez où la police amène des failles au cimetière. Bang bang, on sort les flashballs, bang bang, on tire sur la goule. Bang bang, on sort les flashballs. La loi vient faire l'urée, le boulot sont des bien mères. L'histoire vient de l'opès, les bonnets de la haute pena. Et bang bang, joue les bambins qui tournent. Bang bang, les sirènes qui tournent son. Et bang bang, joue les bambins qui tournent, qui tournent. La loi vient faire l'urée, il n'y aura pas de paix. Tant que la police sera aux affaires et qu'on sera en plein zone. Et bang bang, c'est la jeunesse d'Assour. Bang bang, dès que le bouffeur joue. Bang bang, c'est la jeunesse d'Assour. Et bang bang. Je chante la chanteur à deux pour les garçons de l'air.